France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
À l'écoute de France Culture en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Une émission sous le signe de la culture et de l'art, plus précisément encore, au travers de la rencontre avec un expert en la matière.
Ce modèle est un modèle connu des amateurs d'orfèvrerie et il s'appelle le modèle Renaissance. Il est caractérisé par ce fleuron orné au centre d'un mascaron, dans un entourage de rinceaux feuillagés. Et ce motif s'inspire de l'époque médiévale, de la Renaissance. Tout ça est un petit peu vague, hein. On est en pleine période de l'éclectisme, donc on mélange un petit peu les différentes influences. Ce modèle s'appelle Renaissance, mais puise un petit peu son inspiration jusqu'à l'époque médiévale. Alors, je l'ai pesé, il y a 567 grammes d'argent. Ça, c'est important de le signaler quand on vend de l'orfèvrerie. Et pour ce service dans son écrin d'origine, je pense qu'on peut envisager une estimation entre 400 et 500 euros. Donc je vous propose 450 euros d'estimation.
Qu'en pensez-vous, Dominique ?
Eh bien, nous ne serons pas ce qu'en pense Dominique. Mais en tout cas, vous aurez sans doute reconnu la voix de mon invité. Bonjour Harold Dessel.
Bonjour Jean-Luc.
Diplômé commissaire-priseur en 2004, Harold Dessel, vous avez d'abord travaillé à l'hôtel Drouot, puis chez un grand décorateur parisien, galeriste du carré Rive Gauche, et enfin pour un site internet de vente d'objets d'art en ligne. Votre parcours singulier et votre sens de l'éclectisme vous ont conduit à sillonner les routes de France aux côtés de Charlotte de Turckheim pendant une bonne période dans le programme télévisé Vos objets ont une histoire. C'était en 2014.
Oui, c'était ma première participation dans une émission de télé. Et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et c'est sans doute à ce moment-là que les producteurs d'Affaires Conclues m'ont repéré. Puisque quand Affaires Conclues a été lancée, ils m'ont demandé si j'avais envie de recommencer à faire de la télé. J'ai dit oui tout de suite.
Et donc, vous l'avez dit, on vous voit possiblement tous les après-midi sur France 2 dans cette émission. Alors, longtemps avec Sophie Davant.
Aujourd'hui, maintenant, avec Julia Vignali, les animatrices changent, mais je suis toujours là puisque c'est la 8e année que le programme existe et j'ai toujours autant de plaisir à participer à cette émission, une émission quotidienne sur France 2 tous les après-midi.
Alors on connaît donc votre visage, votre voix, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a aussi un lien avec le protestantisme. Il y a même des pasteurs luthériens dans vos ascendants, paraît-il. Au XVIIIe siècle, c'est ça ?
Alors oui, c'est tout à fait exact. Mon parcours est un peu atypique. Enfin, ouais. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai grandi dans la foi catholique. Et puis, dans ma famille, on a toujours beaucoup parlé de ces ancêtres luthériens, de ces ancêtres qui étaient pasteurs à Landau, à Karlsruhe, au XVIIIe siècle. On en parlait avec beaucoup de déférence. C'était vraiment quelque chose de très important. Et puis, on parlait aussi de l'église des Billettes, qui est une église importante pour les luthériens parisiens, puisque c'est une église qui a été donnée par Napoléon Ier aux luthériens dès 1808 pour qu'ils puissent exercer leur culte. Donc, certains membres de ma famille étaient paroissiens des Billettes, on en parlait encore. Et dans mon parcours, lorsque j'étais étudiant, je suis venu faire mes études à Paris, j'ai poussé la porte de l'église des Billettes et là j'ai découvert véritablement ce qu'était un culte luthérien, un culte aux Billettes. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Ça a été un moment très très important puisque aujourd'hui je dis que je suis luthérien et je suis...
Vous êtes même membre du conseil presbytéral de cette paroisse.
Absolument, oui. J'essaye de m'engager pour cette paroisse des Billettes qui est vraiment une paroisse formidable. Hein. C'est une église très ancienne pour les parisiens qui n'ont pas encore eu la curiosité d'aller voir l'église des Billettes. C'est rue des Archives. Ouais. Et dans cette église, il y a un cloître du 15e siècle et c'est le seul cloître médiéval encore en l'état qu'on peut visiter à Paris. Donc c'est vraiment un endroit formidable. formidable.
Un lieu très beau. Donc,
un cloître du 15e siècle, une église du milieu du 18e siècle, avec des proportions très, très sobres, mais absolument magnifiques, un très bel orgue, et puis une sacristie, la sacristie de l'église des Billettes, et il y a plein de petits trésors à l'intérieur, puisque c'est un mini-musée. Dans cette sacristie, on voit plusieurs œuvres qui ont été offertes par des paroissiens au 19e siècle. Il y a un tableau de Lubin Bogin, il y a des tableaux de Johann Karl Lott, des tableaux très intéressants qui ont été offerts par la comtesse Walter, le général Rapp, enfin tous les grands protestants luthériens du 19e siècle qui ont voulu offrir des œuvres d'art à la paroisse des Billettes. Donc c'est vraiment une église importante et très intéressante d'un point de vue historique et d'un point de vue culturel.
Alors justement, je vous propose à vous et à tous nos auditeurs de nous rendre en quelque sorte dans ce cloître, dans l'église des Billettes, pour écouter l'orgue des Billettes. C'est un orgue Mühleisen.
Absolument.
Donc c'est un très bel orgue qui va être joué ici par Michel Leclerc pour un cantique, un fameux cantique protestant. C'est un rempart que notre Dieu. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour nous permettre d'entendre ce très beau son d'orgue. C'est un rempart que notre Dieu. Harold Dessel, vous avez écrit deux livres, Objets d'histoire, Histoire d'objets. Ça, c'est le premier. Et puis, Ma galerie idéale en 75 tableaux. Les deux aux éditions de La Martinière. Dans ces deux livres, vous partagez véritablement avec les lecteurs votre amour pour l'art. Alors dans le premier, ce sont 80 objets que vous présentez en vulgarisant en quelque sorte avec ce regard d'expert. Et puis dans le second, le plus récent, c'est une véritable déambulation dans cette galerie idéale en 75 tableaux. Et avec eux, vous retracez une histoire de la peinture du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle en nous plongeant dans la vie des peintres, en décryptant de manière simple les symboles, en analysant les techniques, les courants artistique. Ce sont des ouvrages alors passionnants et puis très très beaux puisqu'on est face à ces objets, à ces tableaux. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, autant dans le regard sur les objets, sur des peintures? Comment ça se passe en vous face à tout cela?
Alors, c'est vrai que depuis que je suis enfant, j'ai une fascination pour les objets, pour l'histoire qu'ils racontent. Et si j'ai fait mon métier de commissaire-priseur, c'est pas par hasard. C'est sans doute parce que ces objets me permettent de rencontrer des gens et d'écouter des histoires. Parce que chaque objet raconte l'histoire, mais l'histoire de son propriétaire, l'histoire de la personne qu'il a fabriqué, l'histoire du contexte historique dans lequel il a été fabriqué, et donc ces objets sont un prétexte pour une ouverture sur plein de choses très très différentes. Et donc les objets comme la peinture sont des moyens pour moi de découvrir encore aujourd'hui des choses absolument passionnantes dans tous les styles et toutes les époques.
Alors rien à vendre, rien à acheter ce matin. Ah, je vous aurais bien amené quelques objets, mais j'ai pas osé. Par contre, j'avais envie de vous proposer de refaire un peu l'exercice de votre second livre, c'est-à-dire de nous proposer une sélection de tableaux, peut-être une galerie spirituelle idéale en quatre tableaux. On va être raisonnable. Il y aura un petit bonus à la fin. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme premier tableau, première œuvre? On le fait de façon chronologique, je crois.
Alors, oui. Peut-être le premier tableau, celui qui me touche le plus, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Quand j'étais enfant, quand j'avais 7-8 ans, mon père avait été muté au Mans. Et au cours d'une sortie scolaire au musée du Mans, je découvre avec mon groupe de camarades la vanité de Philippe de Champaigne, un tableau exposé au musée de Tessé du Mans, un tableau qui a été peint en 1646, et je dois dire que du haut de mes 7-8 ans, j'ai été interpellé par cette représentation de la vanité. Alors, les vanités, vous savez ce que c'est, ce sont des représentations de choses éphémères. Mm-hmm. Parfois, certains peintres ont mis en scène de façon très spectaculaire ces bouquets de fleurs, ces instruments de musique. Et ici, Philippe de Champaigne, dans sa Vanité de 1646, choisit quelque chose d'absolument minimaliste. Je vous décris le tableau pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Vous avez un fond noir et une table de pierre rectangulaire. Sur cette table de pierre sont alignés de façon très régulière, à gauche, un vase qui contient une tulipe qui est déjà en train de faner. Au centre, un crâne jaune, un petit peu sale. Mm-hmm. Les yeux, évidemment, il y a pas d'œil dans les cavités orbitales, donc il vous dévisage de façon un petit peu étrange. Et puis à droite, vous avez un sablier, vous voyez le temps qui s'écoule. Et je dois dire que ce tableau m'a toujours énormément touché par sa simplicité, par son chromatisme assez minimaliste. Et par exemple, je l'ai utilisé comme fond d'écran d'ordinateur pendant très longtemps. Donc c'est vraiment un tableau qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore quasiment tous les jours dans ma vie. Donc ça a été un petit choc esthétique pour moi et j'ai été ravi de pouvoir en parler dans mon livre parce que c'est un tableau important pour moi, pour ma vie.
Il dit clairement les choses et forcément, en plus avec ce titre, Vanité, on repense à l'Ecclésiaste, Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours, ou aussi dit autrement, poussière, vapeur, futilité finalement de l'existence. On retrouve tout ça dans ce tableau.
Exactement. Avec ces trois éléments, crâne, sablier et tulipe, ouais, on retrouve l'Ecclésiaste.
Le deuxième tableau n'est a priori pas une œuvre religieuse, mais finalement, on peut aussi y lire quelque chose de spirituel.
Alors effectivement, ça c'est un tableau assez étonnant. Un tableau de Louis Le Nain, famille de paysans dans un intérieur. Un tableau que vous pouvez voir au musée du Louvre. Un tableau qui a été peint entre 1640 et 1645. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente une famille de paysans, des paysans probablement d'Île-de-France, qui nous regardent tous très fixement. Vous avez le père, la mère, six enfants qui sont en train de dévisager le spectateur. La gamme chromatique est assez intéressante puisqu'elle est dans des tonalités de brun, mmh, des bruns assez sombres. La scène est éclairée par un feu qu'on aperçoit dans la cheminée en arrière-plan, et puis un éclairage assez abrupt sur les premiers personnages qu'on voit à droite de la composition. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est une famille de paysans, une famille de gens qui travaillent. On sent qu'ils sont un peu fatigués, il y a une certaine lassitude dans leur regard. Donc, il y a une expression de la physionomie qui a été très, très, très bien décrite par Louis Le Nain. Ça, c'est la première lecture. Du tableau. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus en détail, eh bien on s'aperçoit que l'homme qui est au centre de la composition, le père de famille, tient une miche de pain. Et son épouse, un petit peu plus à gauche, tient un verre de vin. Et donc, il y a sans doute une dimension allégorique, un symbole de la Sainte Seine dans cette représentation paysanne. Et c'est quelque chose, que l'on commande depuis des années et des années, parce qu'on ne sait pas quelle était la sensibilité religieuse des frères Le Nain. Ils étaient trois frères, Antoine, Louis et Mathieu Le Nain, et on ne sait pas s'ils étaient catholiques ou protestants. Les registres ont brûlé, les registres de cette époque ont brûlé, donc il y a une grande interrogation. On pense qu'ils avaient probablement une sensibilité protestante, mais personne n'en a la preuve manifeste. Donc, ce tableau reste une interrogation, mais la dimension symbolique, lorsqu'on l'a décelé, est assez évidente. Oui. Et c'est un tableau qui me parle également beaucoup. C'est une scène vraiment très touchante.
Et au double sens du mot scène, justement, là. Et c'est très intéressant parce qu'on en a parlé, notamment avec les Jeux Olympiques, ces réadaptations de la scène, ou non, et d'ailleurs c'est souvent le spectateur qui décide finalement en regardant ce qu'il voit. Voilà, c'est intéressant de voir que en 1640, enfin dans cette période-là, déjà, on pouvait peut-être être
dans cette double lecture.
Oui. Alors dans cette même perspective justement de lecture multiple possible, vous nous proposez une œuvre de Caspar David Friedrich.
Ah, alors ça c'est formidable, c'est un tableau, c'est vraiment l'icône du romantisme allemand. C'est une peinture qui a été réalisée en 1818, un tableau qu'on peut voir à Hambourg. Ce tableau, vous l'avez tous vu ou entreaperçu, c'est un homme vu de dos qui contemple une mer de nuages. Il est dans il est au sommet d'une montagne. Le premier plan est très sombre et le second plan avec ses montagnes et ses nuages est bleu pâle. On sent l'air glacé qui souffle sur ce voyageur. Alors c'est un tableau qui est absolument merveilleux puisque on peut y voir plein de choses. D'abord, l'expression de la domination du voyageur, hein, puisqu'il est au sommet de sa montagne, il contemple l'immensité de la nature. Donc ça, c'est une première vision.
Il y a une posture cet homme
assez dominante, voilà. Ouais. Mais tout de suite après, eh bien, on s'aperçoit que ce spectateur est en quelque sorte écrasé par l'immensité de cette nature et que finalement c'est une toute petite chose par rapport à l'immensité de la création.
Et l'horizon est bien plus grand et en plus avec des montagnes.
Hein. Avec des montagnes, avec ses éléments. Hein, vous voyez, il a les cheveux cheveux qui s'envolent à cause du vent. Donc on sent que c'est un personnage finalement tout petit par rapport à cette grandeur de la nature. Donc il y a une sorte de vertige qui vient se créer. Et la troisième lecture pourrait être une lecture un petit peu plus spirituelle. Et dans l'œuvre de Friedrich, on peut retrouver parfois une dimension spirituelle. Peut-être que ce voyageur sur son rocher au premier plan symboliserait la condition humaine, tous les humains qui sont là dans l'attente de quelque chose. Et ce qu'on a en second plan, eh bien c'est ce qu'il y a après. C'est l'au-delà, c'est la part de mystère de la vie qui est proposée ici. Et j'aime beaucoup ces différentes lectures qu'on peut avoir en regardant ce tableau. C'est un tableau, là encore, qui me touche beaucoup et que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas en tête. C'est une œuvre absolument magique.
Et on le retrouve, bien sûr, aussi dans votre livre. Moi, ça me faisait penser à ce questionnement biblique, qu'est-ce que l'homme ?
Ben oui, voilà. Oui. Et la réponse, voilà, et on attend la réponse.
Une œuvre plus contemporaine pour terminer ces quatre propositions du XXe siècle, qui elle nous conduit, alors là, directement dans le texte biblique, c'est Adam et Ève, c'est le commencement.
Oui, alors là c'est un petit clin d'œil, c'est-à-dire que pour moi c'est presque la fin du livre, hein, puisque c'est une œuvre de Fernand Léger, Adam et Ève, un tableau qui a été peint entre 1935 et 1939, mais on est à la Genèse, donc c'est le premier couple de l'histoire biblique et c'est amusant, c'est une sorte de clin d'œil. Fernand Léger qui était communiste, qui était athée, a représenté ces personnages bibliques, mais il les a représentés à sa façon.
Donc, c'est très moderne.
Donc voilà, ce sont des personnages du XXe siècle. Vous avez Adam qui porte un maillot rayé blanc et bleu et qui a un tatouage. sur l'épaule, donc c'est presque comme un artiste de cirque. Ouais. Vous avez Ève à côté qui tient une sorte de bouquet de fleurs avec des fleurs un peu fantastiques. Le serpent qui s'enroule autour de la canne d'Adam. Donc on retrouve certains éléments traditionnels, mais l'arrière-plan, c'est un drôle de jardin d'Éden puisque vous avez des sortes de cheminées d'usine avec de la fumée comme ce qui peut s'échapper d'une usine. Donc voilà, une vision un peu amusée de Fernand Léger, mais on s'aperçoit que le thème de la Bible est un thème complètement intemporel et que même en 1935, un peintre communiste et athée représente une scène biblique. Donc c'était un petit clin d'œil et je voulais le partager avec vous.
Un joli tableau, moi je trouve très, très parlant, sur lequel on pourrait discuter longtemps. Alors nous avons l'habitude dans Solae, et puis ça tombe bien maintenant puisque nous parlions directement du texte biblique, c'est celle d'écouter un passage de la Bible, c'est le rendez-vous avec la parole. Je vous propose ce matin d'écouter le texte de Luc 5, versets 1 à 11, qui est le texte de l'évangile du jour. C'est le récit de la pêche miraculeuse et nous l'écouterons ce matin, non pas comme d'habitude avec une lecture et un fond musical, mais dans la version proposée par la Bible audio scénarisée, Bible Reading of Scripture, proposée sur Internet et par application.
Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon,
« Avance là où l'eau est profonde. » Et jetez vos filets pour pêcher.
Simon lui répondit,
« Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. »
Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit
« Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. »
En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon
« N'aie pas peur. « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. »
Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Cette pêche miraculeuse, Harold Dessel, j'imagine qu'elle a été aussi peinte. Est-ce qu'il y aurait un tableau que vous pourriez nous évoquer très vite avant de se quitter?
Ah, alors effectivement, moi je pense à la pêche miraculeuse de Jean Jouvenet, un tableau peint entre 1700 et 1706, un tableau absolument formidable. Et Jean Jouvenet, qui travaillait à Paris, est allé à Dieppe pour observer les retours de pêche et pour peindre les poissons. Donc il y a une très très belle nature morte au premier plan de cette pêche miraculeuse. Et puis une très belle composition pyramidale avec le Christ au centre qui a les bras levés. C'est un geste d'envoi et on sent le souffle, le souffle dans les voiles des navires, le souffle qui vient balayer les nuages. C'est un tableau absolument extraordinaire, un très très,
très
grand format, très dynamique et un très très grand format. Il fait 392 par 664. C'est vraiment une très très belle composition. Vous pouvez voir ce tableau au musée du Louvre.
Eh bien, merci beaucoup, Harold. Je réévoquerai vos deux livres pour terminer. Mais nous allons passer tout de suite à notre chronique. Puisque nous sommes le deuxième dimanche du mois, avec nous ce matin également Marine Torrente qui va nous livrer la chronique des amitiés huguenotes internationales préparée par Christiane Guttinger. Bonjour Marine.
Bonjour Jean-Luc.
Alors quel est le sujet de votre chronique ce matin?
Aujourd'hui, partons à la rencontre d'une figure méconnue mais fascinante, Augustine Soubéran, une femme de conviction, une pionnière, une philanthrope qui a laissé son empreinte aussi bien en France qu'en Australie. Vous ne la connaissez pas encore? Alors découvrons son histoire incroyable. Il y a près d'un siècle, en 1934, le rapport annuel du Comité protestant des amitiés françaises à l'étranger consacrait un article à cette grande Française. Augustine Soubéran, née en 1858 à Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, a mené une vie hors norme que l'historienne Nelly Duret s'emploie aujourd'hui à remettre en lumière. Un livre, une exposition et même une place qui porte son nom dans sa ville natale. Tout cela pour redonner à Augustine la place qu'elle mérite dans l'histoire.
Alors justement, pouvez-vous nous dire qui était vraiment cette Augustine Soubéran?
Née dans une famille d'instituteurs, elle perd sa mère à seulement 11 ans. Envoyée par ses oncles dans un pensionnat à Lausanne, elle y reçoit une éducation brillante, influencée par les traditions huguenotes et les idées progressistes suisses. Mais ses ambitions vont bien au-delà des salles de classe. Vous imaginez à cette époque une jeune fille des Cévennes rêvant de liberté et d'indépendance ? Peu de métiers s'offrent à elle. Alors, elle ose l'inattendu. Engagée comme gouvernante en Grande-Bretagne, elle entend parler d'un comité australien qui encourage l'émigration de femmes célibataires. Pourquoi choisir une telle voie ? Le voyage et l'installation sont pris en charge. L'aventure l'attente. Elle s'embarque pour l'Australie. Et là, à Sydney, elle se réinvente. Elle participe à la création d'une bibliothèque française, puis de l'Alliance française de Sydney en 1895. Avec une amie anglaise, Louisa Gurney, elle fonde l'école de Kambala, un pensionnat pour jeunes filles. Leur projet, une éducation franco-britannique basée sur des valeurs huguenotes, humanistes et féministes. Un programme novateur pour l'époque, qui prépare ces jeunes filles à des études supérieures. En 1911, Augustine est nommée officier de l'instruction publique par la France. Une reconnaissance bien méritée. Mais son engagement ne s'arrête pas là. En 1914, tout juste retraitée, elle fonde la Ligue franco-australienne de soutien aux soldats, veuves et orphelins.
Comment parvenait-elle à avoir autant de soutien ?
Elle mobilise des dons, fait tricoter des écharpes et des chaussettes en laine mérinos par ses anciennes élèves et organise le transport des fournitures jusqu'en France. Rien ne l'arrête. En 1917, elle accompagne elle-même un chargement. En 1918, elle est même la seule femme à participer à la mission française en Australie, conduite par le général Poe. On imagine les difficultés qu'elle a dû rencontrer dans cet environnement majoritairement masculin. Elle multiplie les conférences et les appels aux dons pour reconstruire les régions dévastées par la guerre. Un village des Ardennes, Poilcourt Sydney, prendra même ce nom en hommage à ses efforts. Augustine Soubéran est finalement distinguée par la Légion d'honneur en juin 1933 pour son engagement auprès des jeunes filles et pour son œuvre humanitaire. Hélas, elle n'en apprendra jamais la nouvelle. Elle s'éteint un mois plus tôt, en mai 1933.
Et donc, que retenir d'Augustine Soubéran ?
C'est l'histoire d'une femme qui a osé bousculer les conventions, d'une Cévenole qui a porté haut les valeurs de liberté, d'humanisme et de féminisme, tout en renforçant les liens entre la France et l'Australie.
Merci Marine et merci également à Christiane Guttinger de nous avoir préparé les éléments de cette chronique. Merci beaucoup également à vous Harold Dessel d'être venu ce matin dans Solae. Je rappelle les titres de vos deux livres aux éditions de La Martinière, Objet d'histoire, histoire d'objet et Ma galerie idéale en 75 tableaux. Et bien sûr, on vous retrouve aussi les après-midi sur France 2 dans Affaires conclues.
Alors merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Nous nous quitterons avec un grand classique musical et pétri de foi protestante, Jésus, que ma joie demeure, de Jean-Sébastien Bach, avec le chœur de la radio hongroise, l'orchestre de chambre Félonie de Budapest, et le tout sous la direction de Mathias Honta. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Nicolas de Pagraf à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin à 10h dans Présence protestante, retrouvez le magazine Écriture par Marion Muller-Collard avec Sylviane Dupuis, poète, dramaturge et essayiste suisse sur le verbe créateur mentionné au début de l'évangile de Jean. Mais à suivre ici sur France Culture vos informations, suivi de Talmudique présenté par Marc-Alain Wachnin. Et moi je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.